Le rendez-vous avec Singapour en France, le festival. Venez découvrir la culture et les arts de Singapour à travers plus de 70 événements. Retrouvez toute la programmation sur singapour-lefestival.com.
Et tout de suite, le rendez-vous.
La poésie, c'est plutôt Brassens, non ?
Si tu m'emmerdes avec Brassens, toi. Hein ? L'autre moustache qui ferait mes couilles avec nouilles. J'ai perdu ma couille au fond du ravin.
Ce sera littéraire ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question des hommes, des femmes, de rupture, de Charles Péguy, de Paul Valéry, de danse et même de sexe. Avec Yann Moix qui signe une simple lettre d'amour, un roman qui fait l'autopsie de l'amour entre guillemets pour un retour sur le passé d'un écrivain de 27 ans, Manu Farine.
Tout le monde est chamfort et siorant quand il parle d'amour, contre-proposition par Yann Moix dans une lettre du jeune homme et au jeune homme qu'il n'est peut-être plus.
19h30, la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne qui met ce soir à son programme quoi Jean-Marc ?
Trois films réédités du grand Kenji Mizoguchi.
19h35, plateau inspiré avec Damien Manivelle qui réalise Un jeune poète. Premier long métrage pour un cinéaste formé à la danse et au cirque avec le portrait d'un jeune bachelier de 18 ans qui se projette en poète sous le signe de Paul Valéry, Émilie Chaudet.
Lourdeur des corps et recherche des mots, le tout en 7 tableaux, un premier long métrage qui succède et s'intègre à une filmographie de l'errance.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez que l'on ouvre avec le son du jour.
Quelle certitude as-tu? Avec toi, rien n'est jamais possible. N'écoutes-tu pas ce que je dis?
Mettre faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça, c'est totalement différent.
Non, pas différent, juste différent dans ton esprit.
Très bien, je vais essayer.
Non, n'essaie pas. Fais-le, ou ne le fais pas.
Bonsoir.
Bonsoir Laurent.
Bonsoir Zoé Sfez. C'est votre son du jour.
C'est terrible. C'est mon son du jour. Si vous êtes fan de Star Wars, vous avez forcément reconnu la voix et la sagesse légendaire de Maître Yoda, figure tutélaire inoubliable de la saga Star Wars. Il était doublé en français par le comédien Jean Lescot, comédien cinéma, mais aussi de théâtre, qui s'est éteint hier à l'âge de 76 ans. Juif polonais, il est né Jean Warchprot. Il a été une figure assez singulière. Il a démarré à 20 ans chez Claude Lelouch, sans jamais devenir une vraie vedette, mais en étant très apprécié des cinéastes. Il tourne pour Raoul Ruiz, pour Costa Gavras, pour Alain René. Il avait excellé aussi au théâtre dans sa dernière prise de rôle dans La Mouette de Tchekhov, mise en scène par Christian Benetti à l'Athénée, c'était il y a 2 ans. C'est finalement peut-être à la télévision qu'il aura le plus marqué. Il fut l'un des piliers des 5 dernières minutes à la télévision. Un pilier qui a duré de 61 à 96 tout de même. Il a légué, il faut le dire, sa passion de la comédie à ses 2 fils, David et Michel Lescot.
Je crois que c'est Christian Benedetti.
J'ai dit quoi ?
Benedetti.
C'est mal. Je m'excuse, Christian.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour. Le Parlement grec a voté la nuit dernière le rétablissement de la radio-télévision grecque, l'ERT, violemment supprimée en 2013 par le précédent gouvernement de droite socialiste, dans un contexte de crise gravissime. Et le rétablissement de ce symbole était l'une des promesses de campagne de Syriza.
Oui, alors il faut dire que le vote de cette nuit est symboliquement extrêmement fort. Syriza, le parti de gauche au pouvoir, avait déclaré qu'elle réintégrerait effectivement cette télévision et 1500 des anciens employés de l'ART, ceux qui le souhaitent en tout cas, puisque le groupe comptait en 2013 2600 employés. Plusieurs sont partis en retraite, d'autres ont essayé de trouver du travail ailleurs. Mais il faut dire que malgré la fermeture extrêmement brutale de l'ERT, beaucoup des salariés avaient continué à faire leur métier sans être payés, en résistance, en créant même une ERT pirate, l'ERT Open, comme l'explique Tomias Papayo. Nous, elle est correspondante à Paris de l'ERT depuis 2001.
La résistance a commencé le 11 juin à l'intérieur du bâtiment de l'ERT et avec l'aide des citoyens, des gens qui venaient assister au concert gratuit et juste pour occuper l'espace et ne pas laisser la chance au gouvernement d'y entrer avec la police. Donc ils ont pu et su résister jusqu'en décembre 2013 en créant leur propre chaîne publique qui au début était diffusée normalement. Et à un moment donné, ça s'est arrêté parce que le gouvernement a bloqué son émission normale et c'était visible uniquement par streaming grâce à l'aide des blogueurs grecs indépendants qui ont joué un rôle très important dans le fonctionnement, espèce de fonctionnement pirate de la chaîne publique.
Entre-temps, l'ancien gouvernement avait recréé une chaîne publique sous la pression du Conseil d'État, mais ce n'était qu'une chaîne fantôme.
Oui, puisque le Conseil d'État avait dit que légalement, dans la Constitution, il était obligatoire d'avoir une chaîne publique, mais elle était regardée par à peine 3% de l'audience. Elle avait été baptisée Nérite et elle ne satisfaisait personne. Donc Syriza a toujours beaucoup soutenu les salariés de l'ERT. Il allait souvent d'ailleurs au siège encore occupé par les salariés. Il réalise donc hier l'une de ses promesses les plus attendues. Et l'enjeu est de taille parce qu'il s'agit aussi de bousculer un système des médias tel qu'il existe aujourd'hui, qui est complètement dominé par les chaînes de télévision privées aux mains des oligarques de la société grecque, comme l'explique Statis Kouvelakis. Il est philosophe, professeur au King's College de Londres et surtout membre du comité central de Syriza.
C'était une décision très politique par rapport à la Troïka, parce qu'il fallait se débarrasser d'un certain nombre de fonctionnaires, donc on a choisi ça. On a choisi évidemment de sabrer un service public qui, même s'il a toujours été contrôlé par les gouvernements en place politiquement, mais enfin offrait quand même une certaine marge, si vous voulez, d'autonomie, d'indépendance. Et donc les chaînes privées se sont trouvées en situation, enfin dans l'absence totale de concurrents dans le paysage audiovisuel. Si vous voulez, c'est à la fois une victoire évidemment symbolique, parce que la fermeture de l'ERT était l'un des symboles quand même les plus noirs, disons, du gouvernement précédent, et a certainement précipité sa chute. Et d'un autre côté, cela montre que ce gouvernement ouvre le front des médias.
Le rétablissement de l'ERT soulève désormais beaucoup d'espoir, on le comprend, mais les moyens sont plutôt réduits.
Oui, alors effectivement, d'une part, Syriza a aussi mis en place des éléments de réforme dans le vote d'hier pour limiter certaines dérives financières, mais aussi simplement de pouvoir, autre clientélisme qui existait quand même à l'ERT, on doit le dire. Mais le gouvernement a dit qu'il s'appuiera aussi beaucoup sur le système d'autogestion qui a été développé par les salariés depuis la fermeture. Le coût de l'ERT s'élèvera à 60 millions d'euros par an. Il sera couvert par une redevance assez faible qui a été fixée à 3 euros par mois. Le but, faire une audience de qualité et recréer une vraie place pour la culture dans les médias grecs qui n'en avaient plus, comme l'explique Tomias Papayanou.
Pour le symbole, on est servi. C'est vrai que maintenant, la rouverture officielle de cette chaîne-là, vraiment, ça rétablit l'ordre des choses. C'est-à-dire qu'une chaîne publique n'est pas là juste pour faire de l'audience, mais surtout de soutenir la culture grecque, qui est très importante et une force des jeunes actuellement, qui est un jachère parce qu'il n'y a pas d'argent et les chaînes privées ne donnent pas d'argent, ne prennent pas des risques. Donc la seule issue, c'est la chaîne public. Donc on espère que grâce à cette redevance qui n'est quand même très minime, mais à 3 euros par mois, ça veut dire 36 euros par an, ben on espère que ça devient le multiplicateur, c'est la seule solution pour avoir une renaissance culturelle actuellement en Grèce.
Voilà, alors évidemment, cela signifie aussi quand même que Tomias retrouve son travail, puisqu'elle était correspondante, elle le redevient, et nous suivrons évidemment ce dossier dans le journal de la culture.
Et tout de suite, on passe au bref, Zoé.
Et l'on ouvre avec le mensuel féminin Cosette, qui a été placé en redressement judiciaire la semaine dernière. On l'apprend aujourd'hui, c'est ce qu'indique sa direction. Le magazine Plus féminin du cerveau que du capiton, c'est sa devise, a accusé un déficit de 600 000 euros en 2014, attribué par la direction à de grosses erreurs comptables et à un conflit interne qui a empêché la parution de deux numéros, donc un gros manque à gagner. Les ventes sont maintenant à la hausse, la direction n'envisage donc aucun licenciement pour le moment.
Anna Tsui et Suzanne Guez, récompensés à la Biennale de Venise.
Oui, juste avant que ne débute la 56e édition de la Biennale de Venise, le jury, sous la direction artistique de Okui Nwezor, a décerné le prix le plus important à l'artiste ghanéen El Anna Tsui, le Lion d'or pour l'ensemble de son œuvre, rappelant qu'il a influencé plusieurs générations d'artistes en Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, la conservatrice Suzanne Guez s'est vue remettre le prix spécial Lion d'or pour service rendu aux arts. Le Lion d'or du meilleur pavillon sera évidemment remis pendant la Biennale qui démarre le 9 mai prochain.
Et la dernière.
La dernière, c'est une histoire mignonne et musicale, une histoire de record et de ukulélé qui est, vous ne le saviez pas, mon instrument préféré, le plus mignon, le plus bucolique. Et oui, il y a eu un record du monde du plus grand rassemblement de joueurs de ukulélé qui a été établi à Haïti le 11 avril et qui vient d'être validé par le Guinness Book des records.
Ah bah alors.
Il y avait tenez-vous bien, 4792 Polynésiens qui ont ensemble joué des mélodies précises au ukulélé sur la place Toata, sur le front de mer de Papette. Voilà, alors le huissier de justice a compté, il y a eu des images fournies par une télé, etc. Donc il y avait des groupes de 50 musiciens qui tous jouaient, tous étaient observés par des huissiers. Il y a 11 personnes qui ont été éliminées, je cite, parce qu'elles jouaient trop mal ou qu'elles n'étaient pas en rythme. Donc c'est quand même un vrai, vrai beau rassemblement musical, voilà. Alors il faut savoir que l'ukulélé est originaire du Portugal, mais qu'il a été introduit aux îles polynésiennes au fur et à mesure des années, et que c'est devenu l'instrument préféré de ces peuples. Chaque famille en possède un, voire deux. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, il y aurait pu y avoir encore plus de joueurs de ukulélé, puisqu'il y a 3000 personnes qui sont restées bloquées avec leur pauvre ukulélé. Donc le gouvernement vient d'annoncer qu'il y aurait un nouveau rassemblement pour un nouveau record dans un stade de 10 000 personnes.
Non, mais c'est pas.
C'est vrai que ça méritait une brève.
Quand même.
Un peu longue.
Un peu longue. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter ou podcaster ce merveilleux journal sur la page du Journal de la Culture, sur le site de France Culture.
D'ailleurs, je crois que les podcasts ne cessent d'augmenter.
Écoutez, on vous en remercie tous.
19h20, le rendez-vous. C'est sur France Culture.
Plateau Autopsie avec vous, Yann Moix, écrivain, réalisateur, éditorialiste, chroniqueur, prix Goncourt du premier roman, c'était pour Jubilation vers le ciel en 96, prix Renaudot pour Naissance en 2013, et vous publiez aujourd'hui un roman, Une simple lettre d'amour aux éditions Grasset, une lettre inadmissible, écrivez-vous, qui entreprend une autopsie pour le moins pessimiste de l'amour, avec dans le désordre la rupture, la rencontre, la conquête, les prétendants, la période d'avance, celle de la débauche, l'effondrement d'une première rupture et la fin, avec des considérations sur les hommes, les femmes, le sexe et la procréation. Qu'est-ce qui rendait la forme épistolaire nécessaire pour ce roman ?
C'est une forme que le cinéma, par exemple, ne peut pas employer et que les écrivains emploient généralement pour gagner du temps. C'est-à-dire que la psychologie des personnages, plutôt que d'être développée en amont, se développe à mesure que la lettre est envoyée. Finalement, tout le monde peut recevoir une lettre, donc par rapport au lecteur également, c'est un gain de temps. Chose effroyable, évidemment. Mais finalement, quand on envoie une lettre à quelqu'un de précis, ce qui est mon cas, c'est une lettre que j'avais écrite pour quelqu'un de précis en 1997 ou 18.
À 27 ans.
Plus la lettre est précise, plus évidemment ceux qui la reçoivent voient l'universel qui s'y trouve. C'est ça qui est bien avec l'amour, c'est que toutes les banalités qu'on peut proférer à son sujet paraissent intelligentes et toutes les choses intelligentes paraissent banales. Il y a effectivement ce coup de baguette magique dans tous les romans amoureux, qu'ils soient de gare ou qu'ils soient ceux de l'œuvre de Proust, c'est que tout marche en fait au sujet de l'amour. Proust a totalement tort sur l'amour et pourtant il a tellement raison. Il dit que l'amour n'existe pas. C'est vrai et c'est faux. Et dans La Comtesse de Ségur, tout ce qui se dit sur l'amour est vrai et faux. Et c'est vrai que les banalités paraissent puissantes et les choses puissantes paraissent infiniment banales. Et tout ce qu'on dit après l'expression « l'amour c'est » marche. L'amour c'est ennuyeux, c'est vrai. L'amour c'est passionnant, c'est vrai. L'amour c'est extraordinaire, c'est vrai.
C'est pour ça que vous placez l'amour entre guillemets dans votre texte ?
J'ai placé le mot amour entre guillemets parce que je dis mon amour. Donc c'est parce que comme le narrateur n'aime plus la femme à qui il écrit, le mot amour devient ironique dès lors qu'on le met entre guillemets.
Ce n'est pas le seul qui est entre guillemets. Il y a aussi par exemple première rencontre. Je me demandais s'il y avait certains mots dont vous vous défiez en fait compte dans ce texte. Si c'était une mise à distance, ces guillemets.
Débauche aussi, entre guillemets.
Ce qui est difficile dans les romans aujourd'hui, dans les romans depuis toujours en fait, c'est l'usure des mots. L'usure que Francis Ponge a tellement combattue en essayant de reformuler les mots plutôt que de les utiliser comme ils avaient été définis dans les dictionnaires. Je prends toujours l'exemple de l'huître de Ponge, où il commence, lui, logiquement par définir l'huître comme un galet, alors que quand on prend le Larousse, l'huître, c'est un mollusque. Donc quelqu'un qui viendrait de la planète Mars et qui voudrait comprendre ce qu'est une huître, s'il regarde le Larousse, il est sûr de ne jamais y avoir accès, car on nous présente l'huître comme quelque chose de mou. Bon, donc souvent quand je mets des mots en italique, c'est parce que je me méfie du cliché qu'il y a à l'intérieur. Ils ont tellement été usés, tellement ressassés, qu'à force de les employer, on ne les voit plus. Et ça, c'est un traumatisme que j'ai de la disparition des mots, car le mot donne en lettres, lorsqu'un mot disparaît, et il peut disparaître de deux manières, soit il est définitivement occulté, soit il disparaît sous son emploi répété et abusif et successif, à l'infini successif. Et la réalité disparaît. Je prends le mot livre, par exemple, le mot chat ou le mot caillou, ne veulent plus rien dire, à force d'être utilisés et ressassés par le cliché.
Manu Farine.
Alors, Yann Moix, vous n'êtes plus, en tout cas vous l'espérez, vous n'êtes plus ce jeune homme
qui écrit cette lettre. Vous écrivez d'ailleurs dans l'introduction en italique « Je sens doucement poindre un horizon plus apaisé, plus lumineux, où l'amour serait un peu moins trompé, un peu moins fugitif, un peu moins coupable. » Ce qui
c'est une allusion à Chateaubriand, l'amour est toujours coupable, fugitif ou trompé.
On y reviendra, ce qui vous permet par ailleurs d'écrire les pires horreurs sur les femmes, puisque vous n'êtes plus cet homme, et sur vous-même aussi, hein, je vous le concède volontiers. Pourquoi est-ce qu'il fallait définir ce texte comme étant un roman ?
Déjà, les pires horreurs sur les femmes, je vous arrête immédiatement.
J'en étais sûr.
Je vous arrête immédiatement, parce qu'un narrateur qui écrit les choses les pires sur les femmes, dès lors qu'il les écrit, on voit bien que le livre devient une horreur sur les hommes. Puisque je montre un homme capable
de... C'est ce que j'ai dit, hein, si vous aviez entendu la deuxième partie de la phrase, j'ai dit.
Sauf que l'expression « pires horreurs des femmes » s'est détachée très nettement du reste de la phrase.
Non, le reste arrivait aussi. Oui, les compléments sont des compléments.
Il était moins spectaculaire.
Ah, bien entendu.
Dans la scansion, vous avez remarqué ?
Ou dans votre écoute.
Et non, dans la scansion.
Mais même aussi dans la lecture. Ce qu'on lit, ce sont les pires horreurs sur les femmes. Donc, en complément, on peut y lire à travers ça les pires horreurs sur les hommes.
Je trouve que la partie de la phrase a été spectaculairement bien lue.
Et la deuxième, voilà.
Bon, alors.
Et la question, c'était pourquoi est-ce qu'il fallait définir ce texte comme un roman ?
Qu'est-ce que ça vous permet ?
Parce que j'en ai un. En fait, vous aimez Frank Zappa ? Frank Zappa a fait une série de disques extraordinaires qui s'appelle You Can't Do That On Stage Anymore. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris des morceaux de 1972, par exemple, et des morceaux de 1985. Le même, et il les a remixés, il les a fondus l'un avec l'autre. Et en fait, ce livre, c'est une lettre que j'ai écrite à l'âge de 28, 27 ans, et je l'ai réécrite, je l'ai retravaillée 20 ans plus tard. Donc il y a des blocs que j'ai laissés intacts, et d'autres que j'ai retouchés, et une part d'inédit. Donc j'ai mélangé deux époques. Et ça m'a permis de voir ce que je pensais encore, ce que je pensais plus, ce que je trouvais ridicule, ce que je trouvais un peu plus profond. Sachant peut-être qu'en amour, les choses ridicules sont plus fréquentes que les choses profondes. Et
Vous êtes pour la réhabilitation du ridicule.
Oui, je trouve qu'un de mes dieux absolus, qui est Charles Péguy, a réhabilité le ridicule dans un de ses premiers cahiers de la quinzaine. Il dit que finalement, il y a quelque chose de christique dans le ridicule. Car le ridicule est une chose qui permet à la faiblesse d'être plus forte que la force. Le ridicule du Christ en croix. La manière dont on s'est moqué du Christ en croix, en lui mettant une couronne d'épines sur la tête, avec l'ironie de Jésus de Nazareth, roi des Juifs, où on voit bien là que c'est un emploi du second degré qui fait que ce malheureux, il y a une inversion, c'est dans le livre d'Esther, c'est la bouffonnerie du carnaval, où le roi devient le bouffon et le bouffon devient le roi. L'inversion des valeurs, c'est le carnaval, et le carnaval prône le ridicule, pour une journée seulement.
C'est assez intéressant cette histoire de ridicule parce que justement le ridicule est traité dans la forme, notamment dans la forme stylistique. Il y a des recours répétés à la métaphore chez vous, à la comparaison, avec le retour de formules qui créent presque un jeu d'écriture qui touche au ridicule, mais vraisemblablement sur l'écrivain de 27 ans que vous avez pu être. Par exemple, vous avez cette phrase « Le décalage horaire est à la nuit blanche ce que le buffet à volonté est au souper par Payot », page 15, et un peu plus loin, page 21, comme un écho stylistique, « Le ridicule est à l'amour de soi ce que l'odeur du foin coupé est au commencement de l'été ». Peut-être un commentaire sur cet effet de répétition stylistique, vous qui dites que le style découle de la manière dont on choisit de traiter un événement, Yann Moix.
Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. La première chose, effectivement, dans une première version, j'avais mis entre parenthèses, que je fais souvent dans mes livres, la phrase précédente est ridicule. Là, je l'ai laissée sans le préciser. Vous voyez que je n'ai pas peur du ridicule. Et effectivement, les métaphores, comme la boxe ou comme l'histoire, ne supportent pas l'à peu près. Eh bien, les miennes sont ratées, ces deux-là, je les ai laissées quand même. Et ça, c'est des métaphores, je vais être encore franc jusqu'au bout, qui ne datent pas de 1998, mais qui datent d'il y a 6 mois. La deuxième chose que vous dites sur l'événement, l'histoire, finalement, est un effet de style. La grande difficulté des historiens, c'est de faire tenir dans une forme des événements, des dates, et de les lier les unes aux autres. Vous savez, je me rends souvent en Corée du Nord, et là-bas, il y a des biographes officiels des différents leaders. Et j'ai rencontré quelqu'un dont le métier était de rédiger les années de 0 à 10 ans du grand leader Kim Jong-il. Et alors, il s'est posé très vite un problème, parce que le premier jour, la naissance de Kim Jong-il, c'est fabuleux, c'est le plus grand jour de tous les temps, il pleut des colombes, voilà, c'est le début d'une ère nouvelle. Mais le deuxième jour de la vie de Kim Jong-il, c'est un enfant qui défèque, qui urine et qui hurle. Qu'est-ce qu'on peut raconter de transcendant sur la deuxième... Alors l'histoire consiste à essayer de donner aux jours successifs d'une vie des formes que ces jours n'ont jamais eues dans la vie. Parce que seul celui qui éprouve une existence peut donner forme La magie du cerveau fait qu'on donne forme toute la journée au réel. Le réel en tant que tel n'existe pas. Donc les historiens doivent reconstituer un réel qui n'est pas le leur à partir des conceptions de leur époque, des préjugés de leur époque. Donc c'est pourquoi je dis que l'événement ne tient absolument pas sans le style. Il faut l'inventer, il faut le voir, l'événement. Et le style consiste à avoir un angle, à avoir une vision des choses, à avoir un point de vue sur les choses. Même si ce point de vue est aberrant, même s'il est totalement arbitraire, donner une forme aux choses, c'est pouvoir les lire autrement que dans la manière dont on les lit dans le journal le matin.
Alors, comme à tous nos invités, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué. Voici ce que vous avez choisi. Vous en avez déjà donné presque le commentaire. Identification de ce son, Yann Moix, et la raison pour laquelle vous l'avez choisi, même si je pense que vous venez déjà de l'énoncer.
Là, c'est le président éternel, général camarade Kim Il-sung, donc le père du précédent, qui parle. Il est en train d'insulter le président Carter en lui disant qu'il n'y a pas d'aide agricole à la Corée. Donc on est en 1976-17. Et il est en train de dire que c'est un pays qu'on a toujours laissé tomber et que les États-Unis peuvent continuer à les laisser tomber. Ils ont l'habitude et continueront à se battre.
Pour quelle raison vous l'avez choisi ? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce son ?
Je l'ai choisi pour une raison très simple. C'est qu'on parle de littérature et je me suis aperçu de quelque chose de particulièrement effrayant en me rendant en Corée du Nord. Vous savez que là-bas, la notion de littérature n'a aucun sens quand elle est déconnectée des grands leaders. C'est-à-dire que si vous demandez à un écrivain, c'est le contraire de toutes nos sociétés, et même de la société de l'URSS de l'époque où il y avait, si vous voulez, des possibilités de se battre, à ses risques et périls. En Corée du Nord, les cerveaux sont façonnés de telle sorte que la littérature, la poésie, le roman, l'art en général, est immédiatement connecté à l'idolâtrie auprès des grands leaders. On ne peut pas imaginer la littérature comme subversion. On ne peut l'imaginer que comme soumission. Et lorsque vous demandez à des Coréens du Nord qui se sont évadés, qui maintenant habitent Séoul, s'ils sont capables d'écrire un roman pour raconter leur pays d'origine, la réponse est non. Ils peuvent témoigner, ils peuvent donner des interviews, ils peuvent écrire des essais, des témoignages, ils peuvent répondre à des questions. Mais la forme romanesque, la forme artistique dans leur cerveau est corrélée infiniment et irrémédiablement aux grands leaders. Et je trouve que ça, c'est sans doute une des choses les pires que j'ai entendues de mon existence. Nous, pour qui la littérature ou l'art est une arme, le cinéma, la peinture, la poésie sont des armes de survie. Les gens sont morts pour la liberté de pouvoir écrire et de contredire les pouvoirs. Eh bien là-bas, même ceux qui en sont sortis, même ceux qui n'ont plus rien à risquer, eh bien leur cerveau n'arrive pas à détacher la littérature de la soumission et de l'allégeance au pouvoir politique en place.
Quel était l'objet de votre voyage en Corée ?
La curiosité intellectuelle, visiter un ailleurs, tout aussi insupportable qu'il soit, et essayer de comprendre une situation, car on oublie toujours qu'en Corée du Nord, il y a un peuple qui vit, il y a des gens qui y existent. Si le mot existence a un sens, puisque l'existence c'est pouvoir sortir d'une situation, au sens étymologique du terme, et là, ce sont des gens qui ne peuvent physiquement pas, qui ne peuvent cérébralement pas, et qui sont convaincus, de moins en moins certes, mais toujours, un peu, qu'à l'extérieur de leur pays, une sorte d'apocalypse nucléaire a tout ravagé et que le plus bel endroit du monde reste malgré tout la République populaire démocratique de Corée.
Manu Farine.
De littérature, en revanche, il est évidemment question dans cette simple lettre d'amour de Proust, notamment à l'ombre des jeunes filles en flair en particulier. On apprend aussi que, au fond, le sexe est chronophage, pardon, j'arrive même pas à le dire, qui l'empêche de lire Zola, Balzac, que Racine est une de vos idoles, que vous préférez Dostoïevski à Tolstoï et Frédéric Dard à Simenon. Qu'est-ce que ça dit de la littérature qui vous anime, Yann Moix ?
Cette je suis très influençable. J'adore toujours l'auteur que je viens de lire, ou le cinéaste. Puis alors après, les choses se remettent ensemble, toutes seules, de manière naturelle. Mais c'est vrai que j'adore rentrer dans une œuvre, je suis très excessif. Donc quand je commence un écrivain et qu'il me plaît, j'essaye de passer le plus de temps possible avec lui. Ou quand il y a un cycle à la Cinémathèque, je me souviens d'un cycle Rossellini où j'ai été voir l'intégralité du... Voilà, j'aime bien rester très longtemps, ou Fassbinder, j'ai l'impression d'habiter dans le cinéma, dans les films en question, ou d'habiter dans les livres. Donc là, c'était sans doute les auteurs que je pratiquais intensément au moment où j'ai écrit ce livre. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que quand vous mettez toutes ces influences dans une sorte de shaker personnel et mental, vous arrivez à partir de ces influences, à vous créer votre propre univers. C'est-à-dire que ce qui est fascinant quand on a la chance de pouvoir créer, d'écrire, c'est que ces gens-là vous communiquent leur génie en permanence comme s'ils existaient, en fait. On a l'impression de se promener dans une autre réalité. À savoir que, par exemple, si vous me demandez quels sont les Champs-Élysées les plus réels de ceux qu'on peut visiter en ce moment ou de ceux qui habitent dans la recherche du temps perdu et dans lesquels on pourrait éventuellement rencontrer Gilbert Swann, je ne suis pas sûr de vous dire quels sont les plus réels, quels sont les plus véridiques. Il y a une concurrence, si vous voulez, de la réalité réelle et de la réalité artistique. Ce sont deux mondes parfaitement parallèles, parfaitement homogènes, et dans lesquels j'ai pas la preuve que, dans lesquels je ne suis pas sûr de pouvoir rester très longtemps sans que l'autre ne me manque. Je veux dire par là que si je suis tout le temps dans la réalité qui pique, très vite je vais vouloir retrouver celle qui lui fait concurrence et qu'on appelle la littérature, l'art. En général, le cinéma, notamment, souvent quand on va à la cinémathèque, je pense que Jean-Marc a beaucoup fréquenté les cinémathèques, on voit vraiment des gens qu'on appelle avec un mépris inouï les rats de cinémathèque, mais ce sont tous sauf des rats, qui habitent véritablement dans ce lieu. Et on voit très bien que pour eux, si vous voulez, la fiction a totalement remplacé la réalité. Je voulais, moi, un jour faire un documentaire sur eux parce qu'ils me fascinent. Alors parfois, ils subissent les films, parce qu'ils en voient tellement qu'au bout d'un moment, ça devient un peu mécanique. Et on a vraiment l'impression qu'ils habitent dans le cinéma. Et ils aiment tout. Ce que j'adore chez eux, c'est qu'ils aiment tout ce qui est filmé. Et ce qu'ils n'aiment pas, c'est quand la séance se termine et qu'ils doivent rentrer chez eux et qu'il faut attendre midi le lendemain pour que la cinémathèque recommence à zéro.
Un commentaire à peut-être tout ce que vous venez d'entendre, Damien Manivelle, cinéaste.
Oui, en tout cas, ça fait écho à mon film et à la raison pour laquelle je suis là, notamment sur tout ce qui est l'inspiration. Je suis un peu pareil que Yann, c'est-à-dire que je suis pas très cinéphile, mais si je m'intéresse à un auteur, je vais complètement plonger dedans et voir tous ses films. Voilà.
Vous parlez, Yann Moix, de ces rats qui vivent au cinéma. Vous-même, c'est à peu près la même chose, puisque chaque année, je sais que vous animez un séminaire au cinéma Saint-Germain à Paris. Et cette année, 2014-2015, vous l'aviez consacré à Charles Péguy. Et puisque vous dites que, généralement, quelque chose vous influence du dernier écrivain que vous avez lu, j'imagine que cette année, Péguy était à l'origine de votre programme. Qu'est-ce que ce texte lui doit, La simple lettre d'amour ?
Je ne peux pas vraiment vous dire, c'est très difficile de savoir par où l'influence va. Mais j'essaye de faire un exercice assez passionnant dans ces séminaires, c'est qu'en fait, j'essaye de développer une idée, mais les auteurs que je choisis, j'ai choisi Kafka, puis Francis Ponge, puis Georges Bataille,
et aujourd'hui Charles Péguy, ouais.
J'essaye de leur faire se passer le relais pour continuer un raisonnement.
Alors, c'est-à-dire... en quoi Charles Péguy fait-il suite à Georges Bataille?
Alors, faut d'abord que je vous dise.
Eh bien, vous commencez voilà. par.
Non, mais je vais être très, très bref, je vous rassure.
Ah non, mais c'est bon.
Kafka, pour moi, définit la parole comme une transmission. C'est-à-dire que la lettre au père et la métamorphose montrent qu'il y a eu une cassure dans la transmission de la judéité et du judaïsme du père vers le fils. Le fils n'ayant rien reçu qu'une coquille de noix vide, le judaïsme en question étant une sorte de mascarade, il est obligé de se reconstruire. C'est pour ça que c'est un cancre là. Il est obligé de se reconstruire par la parole et Kafka, n'ayant pas eu la Bible comme transmission, décide d'écrire des romans. Il continue la parole d'une autre manière, c'est-à-dire que l'écriture quitte sa phase sacrée pour entrer dans une phase, non pas athée, mais quand même une phase de parole et non pas une phase de discours, et donc la transmission n'a pas eu lieu, Kafka est obsédé par la transmission. J'embranche, si vous voulez,
sur Ponge, bien
pourquoi
entendu.
Parce qu'une fois que la transmission a eu lieu, cette parole, il faut qu'elle se débarrasse du cliché, c'est-à-dire que la parole doit être... Pour qu'elle soit transmissible, il faut qu'elle soit fluide. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'apesantir avec le monumental, avec les définitions, sachant que la définition, c'est quelque chose qui fige et qui cloue. Donc, on ne doit pas faire de rétention. La fluidité doit passer par l'expression juste. Donc, il faut savoir oublier. Et Ponge, qui était fasciné par Malherbe, a l'obsession de la précision. Donc, la transmission n'est possible que si la précision a lieu.
Voilà. Bataille.
Troisième étape. Bataille. Tout ça est bien joli, nous dit Bataille, mais la transmission, je suis d'accord. La précision, d'accord, mais pourquoi faire ? Pour dire quoi ? Bataille nous dit, la littérature est là pour dire ce qui suit le silence et l'effroi. C'est pas là pour raconter des histoires, c'est pas là, pour, comme nous le dit Adorno, pour être quoi devant l'horreur, l'horreur des camps par exemple. Au contraire, c'est quand on ne peut plus dire, quand on a l'impression que les mots sont impuissants, quand on a l'impression que la mort est en face, que les mots, véritablement, ont besoin de la précision que Ponge leur a préparée et de la transmission que Kafka avait pensée. Donc, Le mot est là pour dire l'impossible. On passe du possible au possible. Et Peggy nous dit,
Charles Peggy, ouais.
Et Peggy nous dit, très bien, Bataille, une fois qu'il a fait cette traversée, c'est aussi très nietzschéen, ce qu'on appelle Übersetzen en allemand, ça veut dire traduire, ça veut dire passer d'une rive à l'autre, celle du possible vers l'impossible. Et Peggy nous dit, est-ce que le point d'arrivée de Bataille n'est pas un autre point de départ? Est-ce qu'on ne peut pas déclencher une mystique du mot, quelque chose qui soit un déisme, sans forcément le Christ, sans forcément les religions déjà existantes, mais est-ce qu'on ne peut pas, à partir de l'écriture, développer une forme d'ascèse qui peut nous rapprocher de Dieu sans forcément passer par les sacrements, sans passer par, forcément par l'Église? Et donc il y a une sorte de retour, un deuxième commencement, où on pourrait construire une religion athée à partir du mot, de la parole.
Je pense que j'ai les mêmes questions que vous, Manu.
Oui, le suivant, j'imagine, après Peggy.
J'en sais rien. Je me réserve toujours ça dans l'été. J'en élimine, en fait, régulièrement. Je vais peut-être prendre un auteur étranger, parce que dans la... Alors moi, je suis germaniste, mais c'est vrai que quand on peut essayer de creuser les mots dans une langue étrangère, c'est toujours plus passionnant, je trouve. Enfin, Kafka, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai découvert, par exemple, en creusant, que le mot Samsa n'avait jamais été correctement traduit. C'est-à-dire, Grégor Samsa, tous les traducteurs vous disaient « c'est un jeu de mots avec Kafka », c'est pas vrai. Ça renvoie à une racine hébraïque, Shemesh, le soleil, la lumière. Et on fait des découvertes quand on plonge dans les langues étrangères. L'idée, c'est de s'étonner soi-même quand on fait un séminaire, même si parfois on se contredit la fois d'après, c'est pas grave.
Et après Peggy, Gombrowicz, sur l'immaturité du langage?
Gombrowicz, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Mais je l'ai tellement lu que je suis pas sûr de pouvoir m'étonner moi-même encore avec Gombrowicz.
Le rendez-vous, la chronique.
Yann Wax et Damien Manivelle, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique cinéma du mercredi de Jean-Marc Lalanne. Trois films à vos programmes, c'est ça?
Absolument, ouais, d'un véritable totem de cette cinéphilie dont parlait Yann Wax tout à l'heure. Kenji Mizoguchi, un immense cinéaste, trois films qui ressortent en salle. L'impératrice Yankwefai, la rue de la honte et l'intendant Sancho, tous les trois qui ont été réalisés entre 54 et 56, qui est le dernier mouvement de l'œuvre de Mizoguchi, qui est une œuvre très longue, qui s'étend des années 20 à 56, qui est la date de sa mort, et donc c'est un peu une apothéose du système Mizoguchi. Il y a quelque chose qui est très troublant, c'est que l'histoire du cinéma japonais, elle repose sur deux piliers, qui sont deux génies du XXe siècle, qui sont Ozu et Mizoguchi, qui ont vécu en même temps, qui étaient contemporains, qui ont travaillé avec les mêmes acteurs, et en même temps, ces deux cinéastes qui ont élaboré des systèmes très forts, des systèmes formels extrêmement repérables, mais qui s'opposent absolument. Ça donne une espèce de lisibilité pédagogique absolue, on peut vraiment pas les confondre. Il n'y a rien de plus opposé que la mise en scène selon Ozu et la mise en scène selon Mizoguchi. Alors Ozu, on le sait, c'est vraiment une mise en scène qui est fondée sur le découpage, le champ contre champ, le cadre fixe, des plans généralement assez courts, alors que Mizoguchi, c'est tout l'inverse, c'est des plans longs, larges et extrêmement mobiles. C'est une mise en scène qui procède par coulée, qui consiste à restituer un espace scénique théâtral où généralement les personnages sont filmés en pied. Et à partir de là, en plan séquence, extrêmement complexe techniquement, la caméra circule et les films comme ça par bloc d'espace et de durée. C'est une mise en scène qui embrasse, une mise en scène qui étreint et qui correspond évidemment à une vision du monde et au sujet profond du cinéma de Mizoguchi, qui est que dans le monde, dans le réel, tout est défait, tout est séparé, c'est-à-dire que la société est divisée en castes, en classes qui s'affrontent, que les hommes et les femmes vivent dans des espaces hiérarchiquement séparés, l'un dominant l'autre, que les peuples s'affrontent dans des guerres, que l'espace domestique japonais est lui-même un espace qui est scindé, cloisonné, avec tous ces panneaux coulissants qui ne cessent de découper l'espace, mais que la vocation de la forme, de la mise en scène, c'est de restaurer cette unité, de réparer par la forme ce que le réel a défait. Donc c'est un projet sublime, et cette idée de l'embrassement, elle passe aussi très très concrètement dans son cinéma par des corps qui s'embrassent. Et par exemple dans L'intendant Sancho, c'est un film qui se termine par deux membres d'une famille dans le haut Moyen-Âge médiéval qui ont vécu vraiment les pires horreurs, qui ont été exterminés, séparés, les deux survivants, une mère et son fils se retrouvent à la fin et ils s'étreignent, et il n'y a pas plus bouleversant que cette étreinte-là, parce que le cinéma de Mizoguchi, c'est un cinéma de la compassion, de l'embrassement au sens le plus fort du terme, c'est vraiment un cinéaste qui a un sens aigu de la souffrance de l'autre et de la capacité à s'y projeter.
Un mot sur le film en couleur.
Oui, l'impératrice Yang Kuei-fai, qui est son premier film en couleur. Il n'y en a que deux dans toute l'œuvre. C'est un film de 55 qui raconte l'histoire d'une courtisane qui, c'est un peu Podane en fait au début. C'est un empereur qui est veuf, qui cherche une femme. Et les ministres lui trouvent une jeune servante très belle dont il va s'éprendre. Mais leur liaison va être victime de complots dans la cour. Et comme souvent chez Mizoguchi, la violence rattrape l'amour. Il y a tout à coup la cruauté sourd et ça termine par une exécution. Et ce qui est très beau dans la violence chez Mizoguchi, c'est qu'il trouve toujours des solutions formelles pour l'euphémiser. Et là, il filme avec une caméra comme ça qui serpente derrière le personnage tous ses atours d'impératrice, ses boucles d'oreilles, ses chaussons dorés, ses foulards qui tombent les uns après les autres. On la voit pas aller jusqu'à la pendaison, mais par contre, on voit toutes ses breloques tomber. Et c'est vraiment un plan final sublime.
J'imagine que le dernier, c'est votre préféré.
La rue de la honte, qui est son dernier film, et oui, c'est vraiment mon préféré. Je trouve que c'est un des plus beaux films du monde, et c'est son seul film, à ma connaissance, parce qu'il a fait 100 films, je les ai pas tous vus. Son seul film contemporain. Il a beaucoup regardé le passé, il a beaucoup regardé le Moyen Âge, et juste à la fin de sa vie, en 56, il filme la prostitution, comme souvent dans ses films, mais dans un bordel contemporain. Et ce qui est très beau, c'est que le film part comme sa brutalité, sa crudité anticipe un peu les grands cinéastes de la nouvelle vague japonaise des années 60, Oshima, Yoshida, et c'est comme si cet homme qui avait toujours regardé, observé le Japon, mais à travers son passé, à la fin de sa vie, la dernière chose qu'il fait, c'est préfigurer ce que le Japon va devenir.
Peut-être un commentaire de votre part, Damien Manivelle. Je vous sais très attentif au cinéma asiatique.
Oui, alors avec ma préférence qui va à Ozu, qui me passionne littéralement. Et ça me fait, je connais peu Mizoguchi, mais ça me fait beaucoup penser à Somai, Shinji Somai, qui du coup, il me semble, a suivi un peu son... C'est beaucoup inspiré de lui. Et j'y retrouve comme ça le plan long et la séquence qui se déplace énormément autour des corps. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Yann Moix ?
Moi, je suis passionné par le cinéma japonais et asiatique en général. Et chez Mizoguchi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est l'imprévisibilité du plan suivant. Une imprévisibilité totale. Alors que chez Ozu, non. Le cadre est installé et l'imprévisible dans les paroles, dans la psychologie des personnages. Et chez Ozu, l'imprévisibilité, c'est les plans. C'est, on ne peut jamais deviner ce qui va s'en suivre.
Le rendez-vous.
Le ciel, tu l'aimes ensoleillé, nuageux ou étoilé ?
Moi, je préfère nuageux.
Ah, je vois. Enfin, je préfère étoilé. Être face à cette voûte étincelante, vers l'infini et l'inaccessible, vers ce qui donne la soif de la découverte et l'imagination, enfin, et bien sûr, l'obscure clarté qui tombe des étoiles.
Plateau Inspiration avec vous, Damien Manivelle, cinéaste. Vous signez votre premier long métrage, Un jeune poète, scélérant son 7 tableaux d'un tout jeune bachelier. Il a 18 ans, dans les rues de Sète, en été. Il est à la recherche de l'inspiration pour écrire ses premiers vers. Un film placé sous le signe de Paul Valéry que votre jeune poète visite au cimetière marin. Alors ce poète, on vient de l'entendre, c'est Rémi Tafanel. Il a l'âge de votre personnage, 18 ans. Vous l'aviez déjà filmé à 14 ans dans un court métrage, La Dame au Chien, où il était un tout jeune adolescent face à une femme dans un appartement jusqu'au moment où elle l'invitait à passer dans sa chambre. Rémi Tafanel n'est pas un acteur professionnel. À l'époque, vous aviez déjà remanié le scénario du court-métrage pour lui, pour sa silhouette et sa diction particulière. Sa diction particulière, qu'est-ce qu'elle a de si particulier que je n'avais pas remarqué au fait ?
Alors, par exemple, dans La Dame au Chien, qui est un court-métrage sous le signe de l'alcool aussi, parce que cette dame le fait boire.
Il boit aussi, d'ailleurs, dans...
Il boit aussi dans Un jeune poète. Rémi, évidemment, à 14 ans, donc n'a pas bu de l'alcool, mais il bafouille, il a une timidité extrême, et il est très impressionné par cette dame pendant le tournage, donc c'est vrai. Et du coup, c'est ça, sa diction particulière, qui est très particulière. Après, pour un jeune poète, je lui ai fait lire beaucoup de poésie pendant le mois qui a précédé le tournage.
Quel type de poésie ?
Je lui ai dit de se plonger dans Paul Valéry, et des choses plutôt classiques, en fait. Et romantique aussi, beaucoup de choses sur la femme. Et il s'est complètement inspiré de ça, et il est arrivé le premier jour du tournage rempli et prêt à écrire ses propres poèmes. Parce que dans le film, on voit ses propres poèmes que je ne retouche pas. Donc.
On parlera de Paul Valéry tout à l'heure avec vous et avec Yann Moix. On retrouve donc cet acteur 4 ans plus tard, toujours en t-shirt et en bermuda. Qu'est-ce que votre premier long métrage, Un jeune poète, que vous avez tourné en 10 jours, et plus largement, qu'est-ce que votre cinéma lui doit ? Est-ce que c'est son âge qui vous a fasciné ? 18 ans. Et à ce moment-là, vous, qui étiez-vous à 18 ans, Damien Manivelle ?
Non, je suis très sensible à la question de l'âge. Je pense qu'on peut faire des films à partir de juste un âge, voilà. Par exemple, La Dame au chien, c'est la confrontation entre une femme âgée et ce jeune homme de 14 ans. Et Un jeune poète, c'est vraiment sur avoir 18 ans et sur ce moment particulier, cet été des 18 ans. Après, moi, mon cinéma doit beaucoup à ma rencontre avec Rémi Tafanel parce que il a amené du burlesque, en fait. Il a amené de la drôlerie, il a amené de l'humour. Il a amené aussi une étrangeté de par son corps et sa façon de se déplacer dans l'espace. Et je pense que quand j'ai commencé à travailler avec lui quand il était ado, j'ai découvert que moi-même, j'aimais le burlesque et que moi-même, j'étais influencé par ça. Et que quand j'étais petit, c'était quelque chose que je voyais beaucoup, en fait.
Quel burlesque? Parce qu'il y en a plusieurs. Le burlesque américain ou du côté de Jacques Tati?
Plutôt Keaton, plutôt Tati. Et après, tous les burlesques qu'on retrouve dans le cinéma contemporain aussi, que je vois beaucoup maintenant, même si elles sont, même si c'est un burlesque, on va dire, un peu caché, comme chez Tsai Ming-liang ou Zhang Sang-soo, voilà, tous ces gens qui vont utiliser comme ça des, on va dire, plutôt la maladresse. On parlait de ridicule tout à l'heure avec Yann. Effectivement, je trouve que c'est une force. Je trouve que ça, Rémi, dans mon film, il a énormément de courage. Il est capable de balancer une chanson comme ça, improvisée à une jeune fille dont il tombe amoureux. C'est très impressionnant.
Michaudet.
Alors, pendant ce tournage qui s'est fait au jour le jour, à 7, vous avez choisi des acteurs non professionnels, parfois quelques minutes avant une prise, quelques jours en tout cas. Certains habitants de 7 croyaient même au début que vous faisiez un reportage sur un jeune poète du coin. Donc les gens que vous voyez, que vous avez choisi pour ce film, gardent leur prénom, leur fonction à l'écran. Ça, c'est une question de budget ou une question de cinéma pour vous?
Bah, les deux, hein, c'est pareil en fait. C'est pareil, donc on est en risque. Le film s'est écrit en 3 semaines, et ensuite on arrive là-bas. Il faut bien trouver une jeune fille parce que j'avais envie de Rémi rencontre cette jeune fille, un copain. Donc
il y avait Anaïs de Moustier par exemple pour une jeune fille.
Non, mais
je veux dire, le fait de choisir des acteurs non professionnels, véritablement, qu'est-ce que ça permet à votre cinéma? Qu'est-ce que ça en dit? Parce qu'on peut trouver, même quand on fait un premier long métrage,
ça lui permet peut-être d'avoir la paix.
Peut-être. Vous connaissez Anaïs de Moustier?
Ah non, en plus je l'adore.
Ah bah moi aussi.
Non, je parlais en général.
Vous méfiez des acteurs, hein. Vous les avez presque confrontés. Oui.
Non, mais moi j'ai énormément de curiosité justement pour le fait de découvrir des gens. Et voilà, ce tournage, c'était vraiment d'aller à la rencontre. C'est aussi Rémi qui allait les rencontrer, ces gens-là. On a rencontré juste 3 filles, 3 adolescentes, et je lui ai demandé avec laquelle il voulait jouer. C'est lui qui a choisi. Après, l'histoire, j'ai mis beaucoup de choses de ma vie, mais il y a aussi énormément de ce qui s'est passé lors du tournage et de Rémi. Donc, par exemple, voilà, les gens qui rencontrent dans le bar et certains, on les avait castés, ils se sont pas pointés, il y en avait d'autres. On leur a dit, est-ce que vous voulez bien boire une bière avec Rémi? Ok, pas de problème, on les filme. Et puis après, il se passe ce qui se passe. Et effectivement, ils croient qu'ils parlent à un jeune poète. Donc, ça donne des situations incroyables où ils venaient me voir entre les prises, donc les gens de ce bar, et ils me disaient, mais ton poète, il est pas top, quoi. Donc, pourquoi tu fais un documentaire là-dessus?
Moi, c'est un commentaire sur ce que vous venez d'entendre.
Je vais aller voir ce film. J'aime beaucoup l'idée. Je trouve très difficile de réaliser des films sur la littérature ou sur les poètes ou sur les auteurs. Enfin, c'est toujours très compliqué. Et là, je trouve que l'angle est très bien choisi. Et moi, la question que je voudrais te poser, c'est pourquoi Paul Valéry? En général, on prend Rimbaud chez les gens de 18 ans. Paul Valéry, c'est plus rare.
J'avais envie de filmer. C'est Sète qui est venu en premier, en fait. D'accord. C'est la ville de Sète et Rémi. Ensuite, forcément, Sète, Paul Valéry. Bon, il y a Brassens aussi. Et donc, on part sur la tombe de Paul Valéry, on commence à tourner, et il se passe ce qui se passe. Mais ensuite, ce qui est drôle, c'est que, pour moi, c'est pas un film sur la poésie, ou en tout cas sur les mots, c'est un film sur l'expression. C'est Rémi qui a envie de s'exprimer, qui a envie de communiquer sa passion, qui a envie de communiquer son désir qui est ardent, et qui fait face à une légère et pas malveillante, mais une légère indifférence du monde, en fait. Les gens sont pas méchants avec lui, juste, ils disent, bon, ok, ce que t'écris, c'est un peu bizarre. Après, je me suis rendu compte, voilà, un peu plus tard, au montage, que moi-même, je lisais Paul Valéry quand j'étais ado, et que j'avais ses bouquins.
J'imagine que ça fait écho chez vous, Yann Moix, vous qui écrivez, Lire Paul Valéry chaque matin dès l'aube. Vous aviez intitulé une chronique comme ça.
En fait, Paul Valéry écrivait lui-même très tôt le matin, il se levait à 5h, et il essayait de trouver des idées. Alors ce qui était fabuleux, c'est qu'il avait un petit tableau chez lui avec une craie, et il faisait des mathématiques, il faisait de la physique, il étudiait la mécanique des fluides, il étudiait la poésie, et il y a des fulgurances dans tous les domaines, des fulgurances politiques, vous pouvez trouver des phrases fabuleuses pour comprendre le terrorisme aujourd'hui. Il essayait d'imiter Pascal, donc il y a quand même des théorèmes de géométrie. Il essaye de réfléchir absolument sur tous les aspects du réel, sans la moindre frontière entre les matières. Et comme c'est un esprit d'une faramineuse intelligence, il arrive à manier le lyrisme avec autant d'acuité que la géométrie, par exemple, la géométrie dans l'espace. Et ce qui est fascinant chez lui, c'est qu'à l'époque où la littérature commence à sentir son André Breton, son Aragon, eh bien lui, il s'enferme pour écrire La Jeune Parc. Le livre le plus désuet de tous les temps, à tel point qu'André Gide ne comprend absolument pas pourquoi Paul Valéry s'enferme là-dedans. Et Paul Valéry a finalement eu plusieurs vies. La vie de symboliste, c'est les époques André Gide, c'est-à-dire ils se sont rencontrés à Montpellier. Donc là, ils sont dans le lyrisme étudiantin. Ensuite, Paul Valéry devient l'homme d'abstraction totale. Et ensuite, quand il redécouvre, ou qu'il découvre plus exactement le sexe, vers 50 ans, il se remet à être très très lyrique, comme à ses débuts, avec la passion amoureuse et sexuelle en plus. Et ça donne quelqu'un d'extrêmement complexe, une œuvre qui est encore assez inédite, il y a encore des carnets, parce qu'il écrivait sous forme des petits carnets, des aphorismes, etc. Donc c'est une œuvre complexe à lire, qui est encore sous forme de miettes, mais que j'invite tous les auditeurs à aller voir, parce que c'est vertigineux. C'est notre Pascal, en fait, c'est le Pascal du XXe siècle.
Émilie.
Damien Manivelle, vous évoquez la silhouette de Rémi Tafanel, grand, très mince. On pourrait aussi parler de son univers. C'est le fils de Jackie Tafanel qui est danseuse chorégraphe à Montpellier. Dans le film La Dame au chien, il est face à une chorégraphe, Elsa Voliaston. Et vous-même, vous avez fait de la danse. Quelle danse ?
Contemporaine.
Et qu'est-ce qu'il en reste dans votre manière de travailler au cinéma ?
Je pense qu'il en reste une chose qui est mon désir de regarder les gens bouger, en fait. J'ai beaucoup de plaisir à ça. Je pense que c'est aussi le cinéma, ça. C'est-à-dire avoir du plaisir à s'émouvoir comme ça d'un corps qui se déplace, qui se lève, qui s'assoit et qui rentre en relation avec d'autres corps.
Vous avez un chorégraphe de référence ?
Non, pas vraiment.
Avec qui vous avez travaillé ? Parce que quand on parle de danse contemporaine, ça peut prendre absolument tous les formes.
Alors, j'ai beaucoup travaillé dans le cirque en tant qu'acrobate, parce que j'ai fait l'école du cirque. Donc, je travaillais avec Arcaos à l'époque. Et ensuite, j'ai bossé avec des compagnies de danse contemporaine. Voilà,
alors, par quel biais vous êtes arrivé du côté du cinéma ? En étant, je crois, c'était à Tourcoing, bien sûr, au
Frénois.
Au Frénois, ouais.
En fait, j'observais, quand j'étais danseur ou circassien, j'observais beaucoup les metteurs en scène et comment ils travaillaient. Et j'étais presque plus fasciné par les voir diriger que d'interpréter le rôle qui était le mien. Donc à un moment, je me suis dit, bon, il y a peut-être un petit souci. Et donc j'ai commencé à faire de la mise en scène avec des potes, on a commencé à monter des spectacles. Et puis assez vite, c'est venu au cinéma parce que j'avais envie d'expérimenter la caméra, tout ça. Et je suis très attaché au fait de produire un objet fini. Donc l'éphémère du spectacle vivant est quelque chose que je trouve très beau, mais que moi, je ne supporte pas en fait.
Comme à tous nos invités depuis le début de la saison, on vous a demandé un son qui vous a marqué. Le voici.
You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.
Bad vibe, ready, tell me everybody slide. DJ spinning, I said my. Flash is fast, flash is cool. Francois, c'est pas, flash ain't no do.
You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.
Au vu du sourire de Jean-Marc, des souvenirs Jean-Marc ?
Rapture Blondie, oui, c'était énorme pour moi.
Il avait moins de souvenirs sur Kim Il-sung.
La raison de ce choix, et qu'est-ce qu'on entend d'ailleurs, Damien Manivelle ?
C'est The Grandmaster Flash and The Furious Five. Et c'est le hip-hop, c'est la culture hip-hop, old school là pour le coup, et c'est ce que je découvre quand j'ai 15 ans, et je me mets à la danse hip-hop et j'arrête un peu...
Ah, il a dansé hip-hop aussi alors quand même.
Ouais, bah parce que tout ça, c'est pour moi, c'est un peu la même chose si vous voulez. Mais la danse hip-hop, c'est quelque chose que j'ai adoré, quelque chose qui m'a passionné. Je pense que le film parle aussi comme ça des passions, comment on peut passer d'une passion à une autre, et qui a voilà, qui a changé ma vie parce que justement dans le break, qui est la danse au sol hip-hop, on découvre des corps différents, on découvre des gens avec des personnalités différentes, et ce qui est demandé, c'est à chacun de s'exprimer suivant son corps et suivant un peu sa folie et sa maladresse. Donc des gens vont retourner la maladresse, qui pas quelqu'un va être trop frêle ou très très souple, trop souple, et il va en faire un style. Là, c'est pour moi, c'est marquant.
Et c'est exactement ce que l'on peut dire de votre cinéma. C'est la meilleure définition que vous venez de faire de votre cinéma.
Merci.
La littérature est là pour dire...
Non.
On leur a dit, est-ce que vous voulez bien boire une bière avec Rémi ?
Non.
L'amour, c'est...
Non.
Le mot est là pour dire...
Non.
L'impossible. On passe du possible au possible. La phrase précédente est ridicule.
Non.
Merci à nos invités. Yann Moix, Une simple lettre d'amour, c'est aux éditions Grasset. Damien Manivelle, Un jeune poète, est sorti aujourd'hui en salle. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain. Demain, une émission sacre du printemps avec un chorégraphe, Jean-Claude Gallota et...
Sonia Quimbretto.
La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Émilie Chaudet, Manou Farine, Adrien Nazelli et Elsa Béranger, journal de la culture Zoé Sfèze, chronique Jean-Marc Lanane, à la prise de son Myriam Guillot et Tristan Gratalon, et à la réalisation Thomas Beau.
J'adore la façon dont vous dites Thomas Beau. La suite ?
Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours et la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Il est 19h53, vous êtes sur France Culture. C'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous et à demain.